Eh bien, vous voyez, le carême commence par une fête. Parce que le carême est une fête. Il commence par une fête et il va finir par une fête. Et en effet, quelle fête plus grande peut-il y avoir qu'un repas ? Qu'est-ce qui pourrait être plus festif qu'un repas ? Le repas alimente notre corps. Si nous sommes attentifs, il alimente notre âme. Il est la figure de l'Eucharistie, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir, d'une autre nourriture qui n'est pas corporelle, mais qui est spirituelle. Et un repas est convivial. Il se prend tous ensemble, tous sont unis dans une même action et dans une même joie. C'est la raison pour laquelle, justement, le Christ a commencé sa passion par un repas. Repas cultuel, certes, c'est un autre aspect. Mais repas festif, malgré tout. Et puisqu'il offrait pour ce repas, il offrait précisément son corps et son sang en sacrifice, y a-t-il une nourriture plus merveilleuse que le corps et le sang de Dieu? Non, bien sûr. Quelle fête plus grande il pouvait y avoir? C'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire cette joie qui se manifeste par ce premier repas de carême, cette joie se manifestera tout au long du carême. C'est la raison pour laquelle nous chantons perpétuellement les Alléluia. Dans l'Église orthodoxe, nous chantons les Alléluia pendant le carême et pour les commémorations des défunts. C'est les deux joies les plus grandes, célébrer nos défunts qui sont arrivés dans le royaume des cieux et célébrer aussi notre festin nuptial, notre festin de noces, notre repas de noces, par ces repas préfigurant l'Eucharistie. C'est un repas nuptial, c'est un repas de noces, puisque la liturgie, la communion au corps et au sang du Christ est une célébration des épousailles entre Dieu et l'homme, entre Jésus et chacun de nous, c'est-à-dire chacun de nous unis en Jésus par l'Esprit Saint, dans le but de faire la volonté du Père. En plus, les 40 jours de carême, notez qu'on ne compte pas dedans la semaine sainte, qui fait quand même une semaine de plus, mais les 40 jours de carême sont une fête aussi, parce que c'est une libération. Même notre jeûne et notre insistance sur la prière, notre insistance sur l'ascèse, plus grande que le reste de l'année, est une participation personnelle, une manière personnelle de montrer à Dieu notre adhésion, un retournement à une libération qu'il opère lui-même pour faire de nous, d'êtres matériels, des êtres spirituels, pour faire de nous des hommes, je vais dire des hommes humains, des hommes matériels, des hommes de cette terre, pour en faire des hommes divinisés, devenus Dieu, avec Dieu, en Dieu. Donc, aborder ce carême, non pas avec une appréhension, qu'est-ce qu'on va manger, ou qu'est-ce qu'on va s'ouvrir à ne pas manger, qu'est-ce qu'on va avoir la tête qui va tourner, non ? Ça, c'est des fausses raisons, ce sont des tentations, c'est des suggestions diaboliques. Mais au contraire, entrons et vivons ce carême avec allégresse. Dans l'Évangile, le Seigneur nous dit que quand on jeûne de ne pas montrer un visage triste et compassé, mais au contraire un visage joyeux et heureux. Il ne peut être joyeux et heureux que s'il n'est considéré non pas comme une privation de nourriture, une privation de sommeil ou un pincem de prière, mais que si on considère, que si on comprend et si on a la volonté de voir ce carême comme un dépouillement de notre enveloppe charnelle et une préfiguration, une pré-participation, un pré-sentiment à la joie qui sera en plénitude autant que faire se peut sur cette terre le jour de Pâques, mais que on prépare et on pré-goûte, si je puis dire, déjà par tous les jours de carême en nous sentant rapprochés du royaume des cieux, c'est-à-dire de la vie même de Dieu. Vous pouvez remarquer d'ailleurs qu'à la fin de ce repas, après avoir chanté les tropaires, nous allons terminer par un baiser de paix. C'est un pré-baiser, si je puis dire. Un baiser de paix, nous en avons deux dans l'Église. Celui-ci au début du carême et celui pendant la nuit pascale. L'un est pénitentiel, on se demande pardon mutuellement et on demande pardon à Dieu évidemment. Et la demande de pardon, c'est avec la décision évidemment de ne plus tomber, de ne plus nous écarter de lui, de ne plus l'oublier, de ne plus le négliger. Alors que le second baiser de paix, celui de Pâques que nous préfigurons aujourd'hui, c'est un baiser glorieux, un baiser dans les deux cas suscité par l'Esprit Saint, mais dans le second cas exprimant la plénitude de la joie, non seulement de voir le Christ ressuscité, mais de ressusciter avec lui. Et la résurrection ne serait rien si c'était une revivification, si elle n'était pas l'accession à une nouvelle vie. La résurrection n'est pas momentanée, elle est une nouvelle naissance pour une vie entière, pour une vie qui durera éternellement, certes, mais une vie entière. Qui vit dit changement, dit progrès, dit amélioration, dit... Saint Grégoire de Nice est un de ceux qui l'ont le plus chanté. Dans le royaume des cieux, on ira de découverte en découverte, d'infini en infini, et l'infini ne cessera jamais de devenir encore plus infini. Ça vaut quand même le coup de passer chaque année 40 jours de telle assaise pour acquérir un tel bénéfice. Et à l'occasion de cette année, de cette entrée dans la Sainte Quarantaine, j'ai essayé, à votre adresse, de repérer dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau les différents épisodes où nous retrouvons les 40 jours, ou les 40 jours et 40 nuits, ou les 40 années. Ce qui revient eux-mêmes, c'est toujours symbolique. Eh bien, si vous voulez, on va regarder quels sont ces passages. J'ai dû en retenir une douzaine vraisemblablement, je ne les ai pas comptés, mais... D'abord, et je vais les commenter au fur et à mesure, vous vous souvenez que le déluge, cette catastrophe qui a effacé la terre, et les hommes qui étaient tombés qui s'étaient éloignés de Dieu, de manière à créer une terre nouvelle et des cieux nouveaux, ce déluge avait duré 40 jours. Et nous-mêmes, qui ne sommes pas si bons que ça, qui sommes pécheurs, qui nous éloignons de Dieu, et le principal éloignement de Dieu, c'est l'oubli, ne pas faire attention à lui. Nous-mêmes sommes mourants, nous sommes noyés par ce déluge qui nous tue véritablement. C'est notre péché. Mais nous savons que, nous l'avons rappelé pour le baptême, ce matin, nous nous rappelons qu'une colombe a amené un rameau d'olivier, c'est-à-dire la préfiguration du fruit. Or, en grec, olivier, olive, huile et grâce, c'est le même mot. Donc, par la colombe a amené la grâce de Dieu, et c'est cette grâce-là qui a été l'annonce de la décrue du déluge, comme la colombe, la même, qui s'est posée sur le Christ au moment du baptême dans le Jourdain, a été le début de notre salut, parce que le Seigneur, Dieu lui-même, s'est moulé dans la nature physique qui l'entourait, dans les ondes du Jourdain, et il a transmis le feu vivant et l'amour du Père qu'il est venu apporter sur terre. Donc, dans cette souffrance du déluge submergé que nous sommes par notre péché, nous avons l'espérance qu'à travers le baptême et la grâce de Dieu, la grâce de l'Esprit Saint que nous recevons tout au long de notre vie, et notamment par notre adhésion à cette conversion, par notre retournement intérieur, nous conduit, nous aussi, vers la terre nouvelle et les cieux nouveaux, vers le royaume des cieux. C'est-à-dire que les 40 jours de carême que nous entamons aujourd'hui sont une reprise, une adaptation, une assimilation, une transfiguration des 40 jours et 40 nuits du déluge qui avait couvert la terre. D'ailleurs, dans le livre des Nombres, le Seigneur nous dit « Vous expirez vos fautes pendant 40 ans ». N'avons-nous pas des fautes à expier? Et nous ne les expions pas pendant 40 ans, par certains côtés beaucoup plus, à peu près le double. Mais symboliquement, nous les expions par ces 40 jours d'assaise que nous acceptons volontairement, et par cet acte volontaire de nous donner à Dieu, de choisir les choses spirituelles que les choses humaines et matérielles, nous manifestons à Dieu notre volonté de coïncider à la sienne précisément. Dans le livre des Juges, nous voyons que le peuple, ayant recommencé à faire le mal, Dieu l'a livré aux mains des Philistins, c'est-à-dire des ennemis, pendant 40 ans. Voyez encore les Philistins représentent les démons, si vous voulez, bien sûr, symboliquement. Et pendant 40 ans, les démons attaquent le peuple hébreu et la servit. Comme nous sommes pendant notre vie asservis par les démons auxquels nous obéissons trop allègrement et trop facilement. Mais précisément, les 40 jours d'assaise de carême, les 40 jours carémiques, sont une, comme je vous le disais, et j'aurai encore l'occasion de vous répéter à chaque cas, notre participation à la correction de cela, à l'acceptation volontaire, comme nous lisions dans l'épître, au sujet de l'épître de ce matin, dans les quelques versets du prophète Michée que je vous citais un peu rapidement, et nous nous reconnaissons pécheurs, c'est-à-dire que nous assumons la responsabilité de nos actes, même mauvais, mais en même temps, nous nous confions totalement, corps et âme, j'allais dire, le plus totalement possible, et c'est la raison pour laquelle on se prive justement de nourriture et de sommeil et de toute forme de convoitise de ce monde, de manière à nous projeter en Dieu et à attendre que le salut vienne non pas de nos efforts, mais vienne de Dieu qui nous le donne gratuitement et non pas en fonction de ce que nous faisons. Il donne gratuitement parce que la nature même de Dieu est la bonté. La nature même de Dieu est d'aimer. Et puisqu'il aime, par voie de conséquence, il pardonne aussi. Mais l'important n'est pas que Dieu pardonne, l'important est que Dieu aime. Et notre carême, notre sainte quarantaine, c'est une acceptation, un désir d'être rempli de cet amour de Dieu, et nous nous mettons à disposition, à sa disposition, pour mieux recevoir son amour, pour mieux sentir son amour, pour progresser dans la foi en son amour, donc dans la certitude de notre salut, mais en assumant tout de même la responsabilité de nos actes, sans penser un seul instant que nous méritions, que nous pourrions mériter le salut qu'il nous offre par bonté. Et puis dans cet axe-là, dans cet aspect-là de la Sainte Quarantaine, j'ajouterai encore la citation du livre de, dans le livre de Jonas, du prophète Jonas, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Et pour nous, encore 40 jours de carême, et Ninive sera détruite. Ne prenez pas ça, évidemment, comme une malédiction pour nous. C'est au contraire une bénédiction, car qu'est Ninive ? Pour nous, Ninive, c'est la mort. La mort physique, bien sûr, mais surtout la mort spirituelle de l'absence de la vie de Dieu en nous. Donc, encore 40 jours, et nous arriverons à Pâques, où à ce moment-là, la Ninive de la mort, la Ninive de l'anéantissement sera détruite de manière à nous faire accéder enfin dans l'autre monde. Et puis, pour ne pas voir les choses, ce que je vous dis là n'est pas négatif, mais pour ne pas voir que l'aspect expiatoire de notre carême, je voudrais ajouter encore quelques trois ou quatre citations. Le règne de David, lit-on dans le deuxième livre des rois, le règne de David dura 40 ans. Or, le règne de David représente, symbolise le règne idéal. David représente le Christ, est une figure du Christ. Et nous savons que le règne prestigieux tel qu'il a été raconté, tel qu'il est rapporté et compris par les Saintes Écritures et les prophètes et les apôtres et le Christ. Nous savons que David a péché, n'est-ce pas ? Comme nous, nous avons péché. Et le prophète Nathan a sollicité son repentir. Vous avez cette fresque-là qui est écrite sur le mur nord de, la, de notre chapelle. Et Nathan a suscité le repentir de David avec beaucoup de délicatesse, et David a fait un retour sur lui-même et a passé sa vie à pleurer de son éloignement de Dieu, mais non pas à cause de la souffrance qu'il en résultait pour lui, mais parce qu'il avait, il s'est rendu compte qu'il avait offensé son Dieu. Et toute la vie de David a été une vie d'expérience, de transfiguration de son péché, d'assumation de sa faute, qu'il a reconnue. Vous avez l'expression de cela, notamment dans plusieurs des psaumes de l'exapsalme de l'Orthros le matin, qui sont tragiques, si on les prend véritablement, ils sont la tragédie de notre vie, celle de David d'abord et la nôtre, si nous les comprenons bien. Mais en même temps, avec quelle espérance, avec quel aboutissement d'un règne justement qui fut presque parfait. C'est aussi pendant 40 ans que les Hébreux, lisons-nous dans le livre de la Genèse au chapitre 6, ça ne doit pas être dans la Genèse, je pense, j'ai dû me tromper. Et c'est plutôt certainement dans l'Exode. Mais les Hébreux se sont nourris de manne dans le désert pendant 40 ans. Et nous-mêmes, pendant les 40 ans de la durée de notre vie sur terre, et pendant les 40 jours de notre carême, nous nourrissons de l'autre manne, du pain qui vient du ciel, dont la manne de l'Ancien Testament n'est encore que la figure, et le pain du ciel pour nous, c'est le pain eucharistique, donc le corps et le sang que le Christ nous donne à chaque liturgie, et pendant toute notre vie de repentir, comme le règne de David, pendant tout ce temps-là, nous nous nourrissons presque exclusivement, je dis presque exclusivement, c'est-à-dire en fonction de notre jeûne, pas simplement du jeûne de nourriture, mais du jeûne de toutes nos passions intérieures, nous nous nourrissons pendant ce temps-là de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu, du corps et du sang même de Dieu. Nous voyons aussi que le prophète Élie, dans le troisième livre des rois, nous voyons que le prophète Élie, après avoir lui aussi une vie imparfaite, comme celle de David avait été imparfaite par son péché, Élie, lui, manquait de miséricorde. Il avait un zèle extraordinaire, mais il manquait d'amour pour les hommes. Et Dieu l'a battu. Dieu l'a éprouvé une première fois en lui envoyant de la nourriture alors qu'il n'avait rien à manger dans le désert. Et quel désert aride, dans le Wadi Kelt. Dieu lui envoie de la nourriture par un corbeau, un animal impur. C'était vraiment pour qu'il s'abaisse à manger une nourriture rendue impure par le corbeau. Il fallait vraiment qu'il ait faim et qu'il trahisse en même temps pour sa faim, pour combler sa faim, qu'il trahisse les commandements de Dieu de ne rien manger d'impur. À la femme qui avait un fils unique, qui n'avait plus rien à manger, il impose d'abord, avant qu'elle ne mange elle, puis après elle pouvait mourir, il impose qu'elle lui fasse des pains et se nourrisse de la bouche, de la nourriture indispensable des autres, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres passages comme ça, mais mon but n'est pas ce soir de vous faire la présentation de la personnalité du prophète Élie. Bref, après cette manifestation de zèle et en même temps d'une forme d'égoïsme, Élie est découragé. Il est attaqué par une passion qui s'appelle la sédie, que nous sommes tous, qui nous tente tous, et les moines tout particulièrement. Les moniales aussi, n'ayez pas peur. Et alors qu'il fuit, la colère de la reine qui voulait le tuer, il fuit dans le désert et marche pendant 40 jours. Et au bout de 40 jours, il est enfin réconforté par un ange qui le nourrit de pain. Non plus un corbeau cette fois-ci, mais un ange. Et nous-mêmes, après les 40 jours où nous marchons dans le désert de notre vie et dans notre désert ascétique, attaqué par les souffrances, la chaleur et la faim, somme doute tout à fait relatif, mais tout de même, un ange, l'ange du Seigneur lui-même, va nous nourrir du pain, le pain céleste, le pain descendu du ciel, c'est-à-dire le pain eucharistique, la vie, et le corps et le sang et la vie de Jésus. Voilà, c'était la deuxième catégorie, si je puis dire, bien que le terme soit mal choisi, de ces symboles des 40 jours ou années. Et puis, allons un petit peu plus loin, dans le Deutéronome, si je ne me trompe pas, Moïse dit « Je me suis tenu sur la montagne 40 jours et 40 nuits, et le Seigneur m'a écouté. » Eh bien, nous aussi, tenons-nous sur la montagne de la présence de Dieu, sur la montagne de l'Église, pendant 40 jours et 40 nuits, pendant notre carême. Il n'y a pas à douter un seul instant que le Seigneur va nous écouter et qu'il nous écoute. Mais je vais même vous dire que si nous avons effectivement le courage de nous tenir pendant ces 40 jours et ces 40 nuits sur la montagne de l'Église, c'est que le Seigneur déjà nous a écoutés. Et avant même qu'on le lui ait demandé, il nous donne la force, le courage et l'envie, le désir profond d'accomplir cet effort ascétique, c'est-à-dire le don de nous-mêmes à Dieu. Toujours avec Moïse, il dit au peuple, toujours dans le livre de Deutéronome, « Voilà 40 ans que le Seigneur est avec toi et vous n'avez manqué de rien. » Alors, n'ayez pas peur, ne mangez pas, ne dormez pas, ou mangez moins ou dormez moins. Mais n'ayez pas peur, vous manquerez de rien. Le Seigneur vous comblera, même dans vos corps, mais à plus forte raison dans votre âme. Si nous donnons à lui, le Seigneur se donne à nous. Et qui est le plus fort, qui est le plus riche? Nous qui nous donnons notre faiblesse à Dieu, qui n'avons que ça à lui donner? Ô Dieu, qui est Dieu, qui est éternel, qui est la vie, qui est l'amour. Dans le livre de l'Exode, nous voyons que Moïse a passé 40 jours dans la nuée. La nuée, c'est la même que celle qui avait obombré la mère de Dieu au moment de l'Annonciation. Mais c'est la même nuée aussi de la présence divine, de la lumière divine, qui a englobé, qui a entouré le Christ avec les deux prophètes et les trois apôtres sur le mont Tabor. Pendant ces 40 jours qu'il a passé dans la nuée, Moïse a vu, il a expérimenté, d'une manière qu'il ne nous a pas racontée, mais qui nous a rendu perceptibles. Il a perçu, il a senti, il a compris, il a expérimenté la vie du royaume des cieux, la vie de Dieu, autant qu'il est possible à un homme de le faire. Un deuxième avec de telles expériences, c'est l'apôtre Paul qui était-ce en mon corps, était-ce hors de mon corps, je le sais, Dieu le sait. Celui-ci est à... J'arrive pas à retrouver la citation par cœur tout de suite. Celui-ci est monté jusqu'au septième ciel. Et expérience qui montre, comme en font certains saints aussi, qu'une certaine participation préalable peut exister de là pour les hommes, une certaine expérience par avance du royaume des cieux peut exister. Et justement, les 40 jours de carême que nous passons chaque année, c'est une préfiguration, un pressentiment de cette vie divine qui se donne à nous en permanence, avec profusion, tout au long de notre vie, et tout au long de l'existence de l'humanité. Dix chapitres plus loin, dans le même livre de l'Exode, il est dit que pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse était auprès de Dieu. Quelle expérience plus grande il peut y avoir. Mais nous aussi, après nos 40 jours et 40 nuits de carême, nous allons nous tenir auprès de Dieu par la célébration pascale, mais pas simplement par la célébration momentanée qui dure quelques heures de la fête de Pâques, mais par notre accession à cette expérience du renouveau, cette expérience de la nouvelle vie éternelle que Dieu nous donne dès ici-bas. Et j'arrête avec ces citations-là pour l'Ancien Testament. Mais ceci pour vous montrer que par notre propre ascèse, si faible soit-elle, quelles que soient les compromissions que l'on va hélas s'accorder, et malgré tout, notre effort ascétique va être une reprise, une assimilation personnelle, chacun pour soi, de toute cette histoire de l'humanité symbolisée par ces différents épisodes de l'Ancien Testament d'abord et du Nouveau ensuite. Ce que nous vivons n'est pas une ascèse individuelle. Je fais mes petits sacrifices pour me priver de quelque chose pour pouvoir montrer à Dieu que je l'aime quand même. Non, c'est une participation au-delà du temps et de l'espace, une participation à l'histoire totale de la création, de l'histoire de la relation entre Dieu et sa créature, entre Dieu et l'homme. 40 jours d'efforts pendant chaque année, pendant notre vie, nous permet, cette toute petite chose, nous permet d'englober toute l'histoire du monde, depuis la création jusqu'à la fin du monde. Est-ce que ça devrait pas nous donner un petit peu de courage et de dynamisme pour nous priver un peu de nourriture et de boisson, nous priver un peu de sommeil, nous priver un peu de loisirs, nous priver un peu de toutes les désirs, toutes les envies que nous pouvons avoir dans ce monde. Et puis justement, parce que j'essaie de vous montrer que par notre carême, notre ascèse de 40 jours, nous reprenons à notre compte, nous revivons à notre compte toute l'histoire de l'humanité, je veux vous montrer aussi que en cela, nous sommes encore en communion avec le Christ. Jésus lui-même, quand il s'est retiré pendant 40 jours dans le désert de Jéricho, et beaucoup d'entre vous connaissent l'aridité du désert de Jéricho, la falaise avec le soleil qui cogne, avec peu d'eau. Eh bien, en se retirant 40 jours dans le désert de Jéricho, le Seigneur prenait à son compte, récapitulait lui-même tous ces événements de l'Ancien Testament, et il en avait conscience. Et vous pouvez remarquer que, alors que le peuple hébreu, quand il était dans le désert, était nourri par la manne, le pain que le Seigneur envoyait pour nourrir le peuple hébreu affamé, vous pouvez remarquer que c'est précisément sur ce point-là que le diable attaque le Christ. Si tu es Dieu, es-tu sûr que tu es bien Dieu? Bien, pour en être sûr, vas-y, c'est facile. Prends des pierres et fais du pain, encore du pain. C'est-à-dire qu'il reprend, le diable, le malin, reprend l'expérience de l'Ancien Testament et la présente au Christ comme une tentation, lequel bien sûr la repousse en disant que l'homme ne se nourrit pas de pain, pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or pour nous, le pain qui nous nourrit, la manne, c'est le Christ. Mais la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est le Verbe de Dieu. C'est le Christ lui-même. Donc notre nourriture, notre seule nourriture vraiment nourrissante, c'est le Christ. Et en assumant notre carême, nous nous montrons à nous-mêmes notre préférence, justement, pour la nourriture, pour la manne spirituelle que Dieu nous donne. Et nous assumons aussi, parce que le Christ l'a assumé pour nous en avance, nous assumons aussi la vie même du Christ. Parce que lorsque nous communions à la Sainte Eucharistie, au corps du Christ, non seulement nous acceptons l'union des natures divines et humaines, la nôtre, mais en même temps, il nous est fait la grâce de partager la vie elle-même du Christ, pas ses pensées, pas son orientation, pas ses décisions, mais ce qui fait la trame de la vie du Christ, qui n'est autre que notre propre vie qu'il a assumée à l'avance. Et puisque il paraît, et quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que j'en doute, bien sûr, mais c'est pour vous dire, selon le vocabulaire de saint Paul, que nous sommes les membres du corps du Christ, si nous sommes et lui est la tête, si nous sommes les membres d'un même corps, ça veut dire que nous portons tous la même vie, pas des vies semblables, mais véritablement, c'est l'unique vie du Christ que nous vivons, chacun à notre manière, chacun avec nos charismes particuliers, avec notre nature, chacun avec notre caractère, si je puis dire, et chacun avec nos réussites, nos gloires et nos échecs. Et puis pour terminer, parce que c'est encore la préfiguration de la résurrection que nous attendons, double résurrection, résurrection du Christ, d'un autre avec, mais surtout la vie nouvelle du royaume des cieux dans laquelle nous entrons, dans les actes des apôtres, dès les premiers versets, le troisième plus exactement. Il nous est dit que Jésus est apparu 40 jours durant et s'est entretenu avec les apôtres du royaume de Dieu. Bien nous, Pâques, on l'a déjà. Pâques, on l'a déjà vécu. Pâques, nous l'avons vécu au moment de notre baptême. Le baptême, pour nous, était Pâques. Le baptême, pour nous, était ce mystère de la plongée dans la mort et de la résurrection du Christ. Donc, pour nous, Pâques n'est pas une nouveauté. Et les 40 jours que nous allons passer n'est pas seulement une assaise, c'est une manière effectivement de trier dans les exigences de la vie, de trier tout ce qui est superflu et de l'abandonner pour être au pied du Christ 40 jours durant et de le laisser nous entretenir du royaume des cieux. Si bien que ce carême est pour nous l'expérimentation, l'écoute attentive de la parole de Dieu que nous pouvons découvrir à travers la prière, à travers nos lectures spirituelles et tout particulièrement à travers les lectures de la parole de Dieu dans les Saintes Écritures, Ancien ou Nouveau Testament. Bien, ceci n'est-il pas effectivement une fête? N'est-ce pas un grand repas nuptial? Un repas qui dépasse la demi-heure que nous avons utilisée à manger quelques nourritures dont nous allons volontairement nous priver pendant 40 petites journées? Allez, la nuit avec. C'est vraiment la joie qui nous permet de chanter les Alléluia, de participer humblement, certes, avec toutes nos fautes et tous nos échecs, mais de participer à cette vie éternelle que Dieu nous donne avec tant de générosité et sans compter. Amen.